comment l'indignation peut naître quand on a 4 ans. Mon histoire à moi, ça commence par une toute petite phrase, 3 lignes, dans le livre de, genre un livre d'art martial, qui disait « Vagabond, connais la dignité de l'acte vertical qui est le propre de l'homme. Même les oiseaux sont assis sur leurs pattes, couchés dans leur vol. »
Samedi dernier, Jean-Baptiste Libouban est venu présenter son livre « Vagabondage d'un faucheur volontaire ». Jean-Baptiste Libouban est membre de la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto et vit à Joncelles, dans l'Hérault. Depuis plus de 50 ans, il participe à de nombreuses actions non violentes en France et à l'étranger. Contre la guerre en Algérie, la fabrication de la première bombe atomique française, contre le nucléaire civil et militaire, contre l'extension du camp militaire du Larzac, ou encore plus largement pour la défense de l'environnement et pour la justice sociale. Initiateur du mouvement des faucheurs volontaires, Jean-Baptiste Libouban a organisé la lutte de la société civile contre la dissémination incontrôlée des OGM. Entretien avec un fervent défenseur de l'indignation. Non violente. Jean-Baptiste Libouban sur Radio Larzac.
J'ai vu des gens tendre les bras et leurs deux doigts levés, leur majeur et leur index toujours en forme de V. J'ai donc demandé ce que ce symbole pouvait signifier. Eh bien personne ou grand personne n'a pu me l'expliquer. Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence?
Vagabondage d'un faucheur.
Ben, c'est un mélange à la fois d'histoire, oui, de faits, donc anecdotiques, si on peut dire, et de l'autre côté, de réflexion. Et puis après, on essaye de trouver le fil rouge dans tout ça, puisque c'est quand même marqué « Vagabondage d'un faucheur volontaire ». Dans ma vie, finalement, ça a été très très précieux pour moi de voir ce fil rouge qui date depuis la toute petite enfance, 3-4 ans, comment l'indignation peut naître quand on a 4 ans. Eh bien, moi, ça s'est trouvé que la personne qui s'occupait de moi, puisque mes parents travaillaient, et qu'il y avait une personne qui était à la maison qui s'occupait de moi, alors que mes parents étaient des gens très très simples, qui venaient de la campagne, qui n'avaient pas d'argent, m'a accusé d'avoir déchiré des papiers dans un coin, ce que j'ai toujours refusé de reconnaître, qui est comme une injustice, et elle m'a donné une paire de claques. Et cette paire de claques, elle est toujours là, au moins, au fond de moi, quoi. Pour moi, quand on parle de résilience, c'est-à-dire qu'on résilie quelque chose qui, c'est résilier un contrat, et ben, j'ai résilié le contrat de la vengeance, du mécontentement, de l'indignation, pour moi, elle s'est transformée en action non violente.
Donc l'indignation non violente, ça vient de apprendre et accepter que les autres en face ont aussi une conscience.
Exactement. Pour moi, ça, c'est ça. Pour moi, ça va jusque là, c'est-à-dire que les autres aussi ont une conscience. Et derrière le gendarme, derrière le juge d'instruction, derrière le commissaire de police, etc. Il y a des hommes, il n'y a pas d'un côté des bons et des mauvais. Il y en a qui ont le mauvais rôle. Mais dire qu'à cause de ça, ils n'ont pas de conscience, ça c'est une erreur. Et on voit très bien que pendant la guerre, même avec Vichy par exemple, eh bien, il y a tout un tas d'agents de police qui ont refusé d'obéir aux ordres, qui ont prévenu les juifs pour la RAF. Par exemple, moi, le commissaire de police de mon père, il a prévenu mon père, dit, si tu as des amis juifs, dis-leur qu'il faut qu'ils se cachent, qu'il faut qu'ils s'enfuient parce qu'il va y avoir la rafle en 42. Et c'est le tailleur juif de la famille qui avait taillé mon costume de première communion. Voilà. Alors que mes parents, je dirais plutôt, ils étaient dans l'ambiance antisémite du coin, du pays à cette époque-là, quoi. C'était pas des gens qui étaient pro-juifs, pas du tout. Non, l'ambiance française à cette époque-là était antisémite. Mais si on connaissait des juifs, ça changeait tout. Parce qu'ils avaient découvert que c'était des hommes, comme les autres, qui travaillaient, qui n'étaient pas les hommes de cette richesse qu'on prétend qu'ils mènent le monde. C'était voilà, comme eux, des gens, des artisans, des commerçants qui faisaient leur boulot sans plus. Et puisqu'on lui demandait même de faire mon costume de première communion.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille.
Ah. Quand t'as lancé une pierre en l'air, c'est pas le moment de dire « Seigneur, Seigneur, fais que cette pierre me retombe pas sur la tête ».
Jean-Baptiste Libouban rappelle cette phrase de Lanza del Vasto, un philosophe et poète italien qui l'a initié à la non-violence. Il vit d'ailleurs aujourd'hui dans une des communautés créées en 1948 par Lanza del Vasto, les communautés de l'Arche.
Si j'ai engagé vraiment ma vie dans la non-violence, c'est à cause de l'Arche, c'est vrai. La non-violence est engagée par l'Arche. Mais je n'aurais pas lancé le mouvement des faucheurs volontaires s'il n'y avait pas eu la lutte du Larzac qui m'a fait rencontrer les paysans et José Bové et toute cette lutte. Et du coup, ça a créé une amitié. J'ai suivi leur lutte. J'ai suivi les procès qui se sont passés après parce qu'ils ont fait d'autres combats. Et puis même, quand José a désobéi, etc., qu'il a été en prison, j'ai écouté les témoins, entre autres Persis Maizer et Jean-Pierre Berland. À les écouter, j'ai compris que vraiment, c'était inacceptable d'accepter les OGM en France. Un, parce qu'il était condamné injustement alors qu'il avait été contaminé, et deux, l'autre en disant cette phrase remarquable, cet homme de l'INRA, Jean-Pierre Berland, qui dit « Les semences ont cette inacceptable propriété de se reproduire gratuitement dans le champ des paysans. » Et ça, c'est inacceptable pour les semenciers. Quand on a dit ça, on a tout compris. C'est que le brevet sur le vivant, etc. Donc, voilà. Donc moi, quand José était en prison, quand il est sorti de prison, je lui dis « José, si on s'y mettait tous, nous la société civile, parce que je pense que ça, c'est l'avenir de la société de demain, c'est la société civile par rapport à tout ce qui est pouvoir. C'est une société d'hommes libres. Et si on s'y mettait tous, nous, pour s'opposer aux OGM ?» Il m'a dit, essaye. J'ai commencé la lutte comme ça. Et il y avait le Larzac Solidarité en 2003. Et j'ai ouvert un bureau d'embauche des faucheurs volontaires. Donc c'était humoristique en même temps. Et j'en faisais faire signer des gens pour qu'ils s'engagent à la non-violence en disant, je m'engage à détruire les plantes OGM. Et ça a marché. Il y en a eu 400. C'était pas beaucoup par rapport au nombre que je m'étais dit que je ferais. Comme j'étais un peu politique, je me disais, s'il vient 50 000 personnes, j'en aurais bien 5 000 pour des gens qui sont tous convaincus que de défendre à la fois les droits de l'homme et l'environnement. Mais l'année suivante, on était quand même 2500, au moins 1500, peut-être 2000, à Verdun-sur-Garonne pour faucher les premiers OGM qui nous ont valu après des procès, qui ont fait connaître les faucheurs, puisque ça, les faucheurs, c'était à visage découvert, et en donnant les noms de ceux qui avaient fauché. Et là, ça a développé toute une solidarité, aussi bien en France qu'entre les faucheurs, et tout un travail des avocats pour trouver des solutions. Et ça a été ce qu'on a appelé, François Roux a appelé, qui existe en droit français, c'est l'état de nécessité. Et ça, c'est une chose extraordinaire, l'état de nécessité qu'a ressorti François Roux, puisque c'est une chose qui est rentrée en droit français en 1956, puisqu'une femme avait volé du pain dans une boulangerie à Mulhouse. Et donc, elle a été condamnée d'abord. Elle a été libérée, non, elle a été relaxée au tribunal de Colmar, pas justement à cause de cet état de nécessité, puisque c'était pour nourrir ses enfants. Et le tribunal de Mulhouse a confirmé, donc ça faisait jurisprudence, et ça devient pratiquement ça la valeur d'une loi, que l'état de nécessité de cette femme ne permettait pas qu'on la condamne. Nécessité fait loi. Alors, actuellement, c'est pas le cas, mais c'est extraordinaire d'entendre comment la loi est rédigée. Un acte qui est moralement inacceptable dans la vie publique, le vol, devient juste quand il ordonnait au bien commun ou à la dignité des personnes. Ça, c'est extraordinaire. Si les religions pouvaient mettre ça dans leur... si l'Église catholique le mettait dans son dictionnaire, je trouverais que ça serait un pas considérable. Alors peut-être qu'avec le pape François, avant qu'il le tue, on arrivera à voir ça. Alors actuellement, l'état de nécessité, c'est de nécessité de la justice, il faudrait quoi. Parce qu'il y a une telle pression des lobbies, des finances, de tout, puisqu'on est dans un système libéral où c'est vraiment l'argent qui est roi et qui mène le monde, au point que les gouvernants eux-mêmes, pour se faire réélire, sont prêts à tout. L'état de nécessité, c'est pour qu'on reconnaisse que ce n'est pas en fonçant. On a une nécessité de vivre plus simplement, de se défaire des multinationales, de ne pas laisser la science faire n'importe quoi alors qu'elle est rachetée, qu'elle se prostitue pour les productions industrielles et l'argent, de ne pas laisser les lois, comme par exemple pour la pérennisation de l'état d'urgence, de faire que les citoyens vont perdre actuellement la présomption d'innocence pour devenir tous des présumés coupables, puisque maintenant n'importe quel policier, si jamais ça devient la règle, ou gendarme, pourra pénétrer chez vous sans ordonnance d'un juge, pour saisir votre ordinateur, même la simple police pourra saisir votre ordinateur. Donc, on est en train de nous livrer aux mains d'un futur gouvernement autoritaire, et tout ça pour se faire réélire, alors qu'ils subissent les pressions et qu'ils sont continuellement en train d'abandonner tout au niveau des multinationales. Donc entre multinationales, le droit, la science et la finance, il y a des prostitutions du droit, les prostitutions de la science, et malheureusement, nous, on n'est pas innocents complètement, puisqu'il y a un consentement à la soumission des citoyens qui acceptent que les choses soient de cet ordre-là, quand même. Pour moi, actuellement, vu que le système est en train de se casser la figure, qu'on est dans l'agonie d'un système, les gens, on leur donne du pain et du cirque, c'est comme le système des Romains autrefois. Ils se contentent de ça, ils veulent pas aller plus loin. On est dans l'état de... Je sais pas si vous avez déjà vu une souris ou un animal poursuivi par un animal plus féroce. Il a un moment, il sait qu'il va mourir, ou qu'il risque de mourir, donc il lâche tout pour pas souffrir. Et j'ai l'impression que beaucoup de nos concitoyens n'osent plus rien dire parce qu'ils sentent la mort venir. On sent qu'il y a la mort et sur le système, il y a une très grande peur et du coup ça paralyse un grand nombre de personnes. Et donc pour eux, bien bouffer, bien manger, avoir des voilà, c'est du pain et du cirque quoi.
Oui, mais justement, bien manger, c'est pas le cas.
Ah ben non.
Bien vivre, c'est pas le cas non plus.
Non plus, mais ils perdent là, on les a contraints, ils ont accepté d'entrer dans cette soumission, et ça c'est, je pense, ce que je crains moi maintenant, c'est plutôt que s'il y a un réveil, ça soit dans la violence. Et ça, l'État justement pousse quelque part les gens à la violence, parce que l'État sait réprimer la violence. Pour la violence, il sait comment faire. On n'a qu'à le voir en Palestine, on l'a vu comment ça s'est passé avec les Indiens aux États-Unis, c'est toujours la politique du cow-boy, moi que j'appelle ça. C'est-à-dire, vous perdez une partie de votre justice quand vous prenez les mêmes armes, vous prenez les mêmes moyens que prend votre adversaire. Et l'adversaire, que ce soit Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs, ou si jamais vous lancez des pierres, le peu que vous fassiez, même si dans l'ensemble, vous êtes des citoyens, que ce soit à barrage de Cévennes, soit notre des gens qu'on ne peut pas traiter de violents, c'est pas vrai. Mais ils peuvent avoir lancé des pierres, avoir lancé quelques insultes. Mais c'est vrai qu'ils sont cagoulés. On a réussi à en faire le bouc émissaire. Et là, la violence, ils savent la jeter sur l'autre. Ils savent la réprimer, alors qu'ils ne savent pas comment faire avec la non-violence.
Qu'à trop vouloir courir, c'est nos vies que l'on finit par fuir. Laissez-nous prendre le temps, laissez-vous prendre le temps. Laissons-nous prendre le temps, juste quelques instants. Laissez-nous prendre le temps, laissez-vous prendre le temps. Juste écoutez le vent.
Alors, la non-violence, elle est quelque chose de subtil, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir aucune idéologie, c'est pas appartient ni à une religion, ni à une idéologie, donc c'est une liberté croyable qui a été donnée, une arme nouvelle, un moyen d'être, aussi une façon d'être, de manière de faire, que nous a apporté Gandhi. Et c'est vrai qu'elle a deux côtés, je dirais, elle a un côté masculin et féminin. Un côté masculin, c'est l'action, voilà, faut dire non. Et un côté féminin, c'est l'ouverture à tout ce qui est conciliation, respect, travail de la terre, etc., tout ce qu'on veut, respect de tout. Des fois, c'est pas toujours compréhensible pour tout le monde que c'est à ces deux côtés-là. Du côté de ce qui est solidarité, solidarité avec la nature, avec la terre, là, il y a quelque chose qui est en train de pousser. Il y a des solidarités partout. Il y a des gens qui font même du covoiturage, peu importe. Donc, tout, à la fois, ce respect de la terre, cette nouvelle thérapie qu'il y a de partout, que ce soit pour soigner les gens, il y a beaucoup de thérapies nouvelles qui naissent, pour l'accouchement sans violence, pour l'accompagnement des mourants. Donc, on voit qu'il y a toutes sortes de nouvelles formes qui naissent, que ce soit en pédagogie ou ailleurs. On voit que ce soit l'école Fresnel, l'école Montessori, on réhabilite la sensibilité féminine, le côté féminin de la personne humaine, où les femmes sont particulièrement riches à la fois de cette intuition, de cette sensibilité, qui font pourquoi les femmes sont en avance actuellement sur les hommes, à cause de ça. Puis elles ont souffert, elles ont été opprimées, elles ont été soumises, hein. Les femmes n'avaient même pas le droit parental encore en 45, donc c'était quand même énorme, quoi. Mais donc là, avec les Colibris, on a un mouvement qui aide les gens, je veux dire, même avec une toute petite goutte d'eau, c'est très important sur une forêt, parce que des milliers de petites gouttes d'eau, ça peut éteindre une forêt. Moi, je dis, un grain de sable dans la machine, ça peut permettre que la machine se coince. Lui, c'est la goutte d'eau pour éteindre l'incendie. Moi, c'est le grain de sable avec Pierre, on s'entend très bien, on a fait des choses ensemble, et je pense que c'est un peu comme le film Demain, ce sont des films qui donnent de l'espérance, ou dans tous les cas, pour montrer qu'il y a une petite pousse verte qui pousse dans le béton, et que s'il y a un monde qui est dans l'agonie avec les crises qu'on va connaître, et peut-être qu'il va nous tomber sur la tête, comme disait Lanza, quand t'as lancé une pierre en l'air, c'est pas le moment de dire « Seigneur, Seigneur, fais que cette pierre me retombe pas sur la tête ». Mais en même temps qu'il y a cette agonie, il y a, je dirais, les premières crises aussi. C'est peut-être pas des crises, mais quand même, avec Davos et tout ça, les premières contractions de cette petite bébé qui essaye de naître et qui est différent, mais qui est tout petit. C'est une toute petite pousse verte qui pousse dans les failles du béton, mais que sur lequel il faut bien regarder, parce que ça, c'est le monde de demain, c'est l'homme de demain qui est en train de venir.
J'en appelle aux maisons écrasées de lumière, j'en appelle aux amours que chantent les rivières, à l'éclatement bleu des matins de printemps, à la force.
Oui, je pense que ça dépasse Pierre Rabhi, ça dépasse demain, il y a quelque chose qui va naître, quelque chose qui va se faire, c'est certain. Parce que, il y a une attente. Il y a une attente actuelle qu'on trouve une forme qui va être variable. Ça va prendre progressivement un peu comme ça. Je pense pas que ça va se faire tout de suite comme ça. Mais, il y a une attente, il y a un besoin. Donc, s'il y a une attente et un besoin, il y a quelque chose qui va surgir. Moi, c'est ce que j'appelle l'irruption de l'inattendu dans les luttes. Oh, il y a quelque chose qui arrive qui fait que, même dans notre vie, c'est comme ça, quoi. Pourquoi vous avez, comment ça se fait que vous rencontrez ceci? Comment ça se fait que vous rencontrez cela? Que vous avez choisi ça? Eh ben, ça vous a été donné. C'est la vie qui vous le donne sur un plateau comme ça. Vous pouvez le refuser, mais si vous êtes attentif, bah.
Jean-Baptiste Libouban lutte aussi contre l'invasion des éoliennes industrielles.
Pourquoi on n'en parle pas? Parce que les gens, on les a convaincus que c'était une énergie alternative au nucléaire, qui est la pire des choses. De toute façon, le nucléaire, c'est la pire des choses. Fukushima, etc., c'est la pire des choses. Donc, si on leur promet, c'est un écran de fumée, que demain, à cause des éoliennes, on n'aura plus de nucléaire, alors qu'ils s'en fichent royalement, ça représentera 5% de l'énergie française au maximum, en polluant toute la France, presque. Mais le gouvernement, ou certains partis qui ont intérêt, qui l'ont cru, par bonne foi peut-être aussi, il n'y a pas que de la mauvaise foi. Mais comme on est tellement dans ce discours-là, que voilà, ça va être alternatif, c'est renouvelable, mais ce n'est pas alternatif. C'est renouvelable surtout pour les bénéfices des actionnaires. Eh ben c'est ça, c'est se mobiliser, c'est pas laisser les gens tout seuls, faire attention que ceux qui ont des raisons, qui dénoncent des scandales comme ça, où on pourrait très bien, vous voyez, les éoliennes, c'est un très bon, ça peut être une très bonne source d'énergie, il n'y a pas besoin de faire des lignes à 400 000 volts, c'est parce qu'on veut vendre du courant. Et à cause, parce qu'on veut vendre du courant, parce qu'on veut faire de l'argent, parce que c'est vrai qu'on a une énorme dette, mais les dettes, quand les banques elles sont en difficulté, on leur demande pas de revoir la dette qu'ils nous ont, on les renfloue sans rien leur demander. Ça, c'est encore un autre scandale. Donc là, il n'y a pas besoin de vendre du courant. Il suffirait qu'on fasse du courant près de chaque village avec des petites éoliennes, quand les gens ils pourraient savoir faire le rechauffe chez eux, leur chauffage en hiver, une partie de leur chauffage. Il n'y a pas besoin de faire d'immenses réseaux à travers toute l'Europe, comme ils veulent faire, et dans lequel on va perdre 30% de toute l'énergie. Puis, de toute façon, ce n'est pas alternatif, puisque quand il n'y a pas de vent, il faut mettre en route des centrales à gaz. On est devant un système éolien qui prétend être alternatif, qui ne peut pas l'être, puisque le vent ne souffle pas tout le temps, il va marcher qu'un tiers du temps, par exemple. Donc pendant les deux tiers du temps, si vous mettez des éoliennes en route, pour pas que ça fasse des sautes dans le marché, il faut mettre en route des centrales à gaz. Donc là, c'est du CO2 qui est produit quand même. À moins que je me trompe, mais enfin, comme me le montre. Deuxièmement, ils vendent les taxes carbone pour que d'autres puissent polluer. C'est quand même assez extraordinaire qu'on nous prétende que c'est une énergie alternative qui permet pas aux autres de polluer. Qui vendent deux fois le prix sur le marché du courant, ils le vendent deux fois. On lui dit, mais c'est une subvention d'État. Mais les subventions d'État, qui est-ce qui les paye? C'est quand même nous tous. Alors, en quoi vraiment des éoliennes industrielles sont alternatives? très 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 faiblement. C'est simplement pour vendre du courant. Après, chez nous, par exemple, on va avoir presque une centaine d'éoliennes dans un rayon de 5 km. Et autour de Saint-Victor et Malzieu, c'est autour de 100 km, plus que 700 éoliennes qui vont avoir lieu. Donc on massacre les paysages. C'était des paysages de toute beauté chez nous qui étaient préservés. Depuis des années, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils pourraient inventer, puisque vraiment, ici, il n'y a pas de mine, il n'y a pas d'autoroute, mais qu'est-ce qu'ils pourraient inventer pour nous gâcher la vie? Eh bien, ils l'ont trouvé. Ils vont acheter le vent, ils vont acheter l'espace. C'est incroyable. Je me dis, mais ils ont un génie extraordinaire. De ce côté-là, ils ont un génie extraordinaire.
Le vent nous portera.
Est-ce qu'on est capable un jour, peut-être, quand on a vraiment assez, de descendre dans la rue et de dire non? Il suffirait qu'on se tienne même simplement comme des arbres. Il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin de lancer des pierres, il n'y a pas besoin de tout ça. Arrêtons de travailler, arrêtons de servir, arrêtons de circuler, arrêtons de tout. Restons là, dans la rue, et puis voilà, on va s'organiser entre nous, on va manger, on va peut-être chanter de temps en temps, mais arrêtons. Moi, j'ai bien croire que j'ai fait une délégation de vote à mes responsables politiques, mais j'ai pas donné une délégation de conscience. Donc c'est nous, en conscience, la société civile, qui avons le pouvoir. J'aime beaucoup justement cette phrase de La Boétie. Les puissants de ce monde n'ont de pouvoir que celui que leurs sujets veulent bien leur accorder. 16e siècle. Les puissants de ce monde n'ont de pouvoir que celui que leurs sujets veulent bien leur accorder. Si on veut pas leur accorder, eh bien non. C'est pas nous qui sommes au service du pouvoir. Faut pas se tromper. C'est eux. Ministre, ça veut dire petit serviteur, normalement. Comme c'est peu compris. Si c'est pour moi, s'ils font tout ça pour se faire réélire en essayant de nous faire peur et en mettant tout ce qu'ils se font actuellement pour montrer qu'ils sont plus méchants que les autres et qu'ils vont. Non. Et pour ça, que tout ça, ça tombera. Parce que tout ça, c'est fondé sur du sable, c'est pas fondé sur la vérité, c'est fondé sur l'argent, sur le business. Et un jour, ça craquera. Alors, moi, j'ai de l'espérance, maintenant, et je pense que tous ceux qui sont résistants, tous ceux qui sont solidaires, tous ceux qui croient à la fête, tous ceux qui travaillent sur eux-mêmes, parce qu'ils veulent pas avoir un gendarme derrière le dos demain, tout cela, ils montrent qu'il y a un monde qui est en train de se construire autrement, et ça, de ce monde-là, ça veut pas dire qu'on risque pas de souffrir, mais on saura pourquoi on souffre, et comme disait aussi Edgar Morin, il citait ce proverbe turc, les nuits sont enceintes, et on ne sait pas quel sera le jour où j'en sortira. Donc, moi aussi, je fais confiance à la vie ne peut pas mourir. La vie est plus forte que la mort, et même si on doit souffrir, mais on sera solidaire entre nous, on continuera à chanter. Quand je vois comment les gens font, même en Syrie, dans les ruines, comment je les ai vus, quand je les ai vus en Irlande, dans des maisons détruites, comment la vie continuait quand même, on a cette capacité de résistance et de vivre et de nous soutenir les uns des autres, qui nous obligera même à cause de ça. Garde à rem, loup moral.
Jean-Baptiste Libouban, optimiste, indigné, non violent. Jean-Baptiste Libouban revient sur les réflexions d'une vie de non-violence, active et spirituelle, dans son livre « Vagabondage d'un faucheur volontaire », disponible en librairie.